la recherche de la confiance perdue vis-à-vis des vaccins, de la police, des gouvernants, des institutions, de l'État, tout simplement. Il suffit d'entendre Olivier Véran, Jean Castex, ces derniers jours à propos de la stratégie vaccinale de la France face au Covid, ou Emmanuel Macron, hier, sur Brut, parlant des jeunes ou des rapports à la police, pour comprendre que même si ça n'est pas nouveau, il y a là un véritable enjeu. Mais sur quoi repose la confiance envers l'État et les institutions? Comment et pourquoi s'effrite-t-elle? Comment se retrouve-t-elle? Et sommes-nous tous égaux face à elle? Nous en parlons avec vous ce matin, Alexis Spire, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directeur de recherche CNRS, auteur en 2018 au Seuil du livre « Résistance à l'impôt, attachement à l'État ». Vous signez dans le livre « Crise de confiance » paru il y a quelques jours et dirigé par Claudie Assénic à la découverte, un chapitre intitulé « Confiance dans l'État, une relation pratique et symbolique ». Et vous menez en ce moment un projet de recherche sur la confiance dans les institutions étatiques et scientifiques à l'épreuve du coronavirus. Nous en parlerons bien évidemment. D'abord, cette expression « crise de confiance » qui peut sembler un peu fourre-tout, vous paraît-elle effectivement refléter, qualifier particulièrement bien la période que nous vivons ?
Disons qu'il faudrait commencer par dire que derrière le mot confiance, il y a plusieurs significations et il y a une grande polysémie. Ce qu'on veut essayer de faire dire à la confiance en général, c'est que c'est une espèce d'idée qui flotte comme ça dans les airs et rattachée à rien. Or en fait, je pense qu'il faut partir de l'idée que le sentiment de confiance, c'est-à-dire la capacité à s'en remettre à une institution, à un gouvernant, à un élu, ça doit être rapporté à des pratiques sociale et surtout, ça ne doit pas effacer la question des conflits, la question des luttes qui existent dans le monde social entre autour des enjeux politiques, autour des institutions, et que ce sentiment de confiance qu'on essaye de mesurer comme ça de façon abstraite, en fait, il est le produit de rapports sociaux, de pratiques, de conflits, de luttes, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mes enquêtes, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à des chiffres, des taux de confiance, mais essayer de regarder très concrètement les rapports pratiques que les groupes sociaux, que les individus entretiennent avec les institutions.
Voilà, parce que vous dites qu'il y a en fait une double confiance, enfin il y a la confiance symbolique et la confiance pratique. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer cela et pour être concret, prendre un exemple, la police, puisque c'est une grande question d'actualité et l'une des institutions à propos desquelles vous avez étudié cette relation de confiance.
Oui, ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il y a, il y a effectivement au moins deux dimensions à la question de la confiance. Il y a une dimension symbolique qui est de dire dans une conversation, quand on répond à un sondeur, est-ce que vous avez confiance dans la police, voilà, et de dire oui, plutôt pas, plutôt oui.
C'est plutôt oui, en l'occurrence.
Et en l'occurrence, avec la police, on est face à une institution qui recueille des taux de confiance symboliques, on pourrait dire, extrêmement élevés. Hein. On est entre 75-80% de gens qui font plutôt confiance ou tout à fait confiance à la police. C'est d'ailleurs pas une particularité française, ça se retrouve dans pas mal de pays européens. Et ensuite, il y a une autre dimension de la confiance qui est aussi une dimension pratique et importante. C'est quand vous avez un problème, un pépin, un conflit de voisinage, est-ce que vous faites appel à une association? Est-ce que vous faites appel à la police? Est-ce que vous faites appel à un avocat? Est-ce que vous faites appel, voilà. Et ça, c'est une forme de confiance pratique. C'est en pratique, est-ce que vous êtes prêt à vous en remettre à une institution étatique, ou en l'occurrence ici, puisqu'on en parle, à la police, quand vous êtes en situation de conflit et que vous avez besoin d'un arbitre à ce conflit. Et ça, c'est deux dimensions qui sont très différentes, mais qu'il faut avoir en tête parce que c'est précisément ces deux dimensions qui sont structurantes dans le rapport qu'on entretient à l'État et dans le rapport qu'on entretient aux institutions étatiques.
Avec effectivement des réponses différentes, et si on reste sur cet exemple de la police, vous le disiez, la confiance symbolique assez forte, dans la pratique, ça n'est pas la même chose.
Alors, dans la pratique, ça n'est pas la même chose, et puis il y a une autre dimension aussi, c'est que ces deux aspects sont assez interdépendants. C'est-à-dire, ce que je montre dans ce chapitre et ce qu'on a réussi à montrer dans cette enquête, c'est que si vous mesurez la confiance comme ça in abstracto, vous voyez pas forcément les choses. Mais si, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous avez subi des contrôles d'identité, par exemple, dans les dernières années, plus d'une fois, plus de trois fois, plus de dix fois, vous vous rendez compte que ce sentiment de confiance, il baisse à mesure que les personnes ont eu des expériences pratiques avec la police et que évidemment mesurer un sentiment de confiance envers la police auprès de gens qui en fait n'ont jamais été véritablement confrontés à l'interaction avec la police, ça n'a pas du tout la même signification que, alors je prends l'exemple des contrôles de police, mais en fait il y a plein d'autres occurrences.
Oui, vous faites aussi pour la justice, pour
voilà.
La,
et puis il y a plein d'autres occurrences au cours desquelles on peut être confronté à la police, hein, quand on va porter plainte, quand on va pour des questions administratives, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que tout contact confondu, en fait, hein, plus on a de contact avec l'institution policière, et plus le sentiment de confiance a tendance à décliner. Et donc ça doit interroger, parce que précisément, ça fait comprendre que le sentiment de confiance qu'on mesure, il est le produit de cette pratique. Et que si on a un taux aussi élevé, c'est aussi parce que une grande partie des gens, en fait, font confiance à la police sans avoir été véritablement confrontés à elle.
Et alors, cette dimension pratique de la confiance, comment l'État peut-il y répondre, puisqu'elle dépend de l'expérience précisément de chacun et de chacune, et qu'elle dépend aussi de, puisque c'est l'expérience de chacun, ça dépend aussi de l'agent face auquel on va se retrouver. Donc tout ça est des situations particulières. Donc comment l'État peut répondre ?
Ah bah c'est là qu'il faut faire de la comparaison, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe pour l'administration fiscale, la relation est un peu inverse, c'est-à-dire que le sentiment de confiance a tendance à croître quand on a eu un rapport pratique ou une interaction pratique avec l'administration fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la question de la qualité du service public, que la qualité de la relation du service public est extrêmement fondamentale dans la construction du rapport aux institutions étatiques. Et alors dans un contexte où on a un État qui rétrécit de plus en plus, où on dématérialise de plus en plus la relation au guichet, où on prône une administration sans guichet, on va faire beaucoup d'économies, mais on va sans doute un peu plus éroder cette relation de confiance entre un grand nombre d'usagers et les relations et les institutions étatiques, parce que, alors évidemment, là il faut faire de la sociologie et introduire des différences entre les groupes sociaux. Il y a effectivement à certains niveaux de diplôme, des gens qui sont extrêmement à l'aise avec les rapports dématérialisés, les rapports à distance, etc. Et puis il y a tout un pan des usagers qui ont besoin d'avoir une relation avec des représentants de l'État, parce que c'est précisément à travers cette relation que ils peuvent espérer accéder à des droits, comprendre les procédures auxquelles ils doivent se conformer et se projeter un peu dans l'avenir et compter sur les services publics pour atténuer un peu leurs difficultés.
Alors, vous montrez à Alexis Pire que même s'il y a des différences entre les institutions, le rapport aux institutions étatiques est étroitement corrélé à l'âge. La conclusion, c'est que les jeunes sont moins confiants. Hier, dans sa longue interview à Brut, qui était particulièrement destinée aux jeunes, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises que les jeunes étaient plus exigeants que les autres. Est-ce que la défiance à l'égard de l'État est un signe d'exigence, finalement ?
Je sais pas, parce que tout ça, encore une fois, là, on tombe dans des discussions très théoriques et il faudrait, être très précis sur ce qu'on entend par ces termes. Mais là où je vous suivrai complètement, c'est qu'effectivement, la question de l'âge, la question des générations est très importante, et que quand on regarde très concrètement les résultats des enquêtes, il y a aussi, dans toute une partie de la jeunesse, l'espoir que les choses changent, que les institutions changent, que la société change, et que cet espoir de changement, il est souvent déçu par la pratique, et que ce qu'on mesure à travers cette différence entre les âges de rapport de confiance aux institutions, c'est aussi une forme de résignation à mesure qu'on avance en âge et à mesure qu'on avance dans la vie par rapport à ce que peuvent les institutions, alors qu'il y a à mon avis chez toute une partie des jeunes l'espoir que précisément les discours d'égalité, de démocratie puisse se traduire dans les faits. Et ça, c'est des espoirs qui sont souvent déçus à cet âge, et c'est ce qu'on mesure en fait à travers ces écarts.
Déçus à cet âge et déçus en ce moment, parce que ce qu'il y a aussi avec cette crise, on le sait, c'est qu'il y a une mise en lumière des inégalités sociales qui existaient déjà auparavant, bien évidemment, mais qui sont devenues encore plus criantes. Et on a aujourd'hui, comme Margot Delpierre l'a dit dans le journal, cette marche annuelle des chômeurs et précaires qui cette année va faire manifestation commune avec les opposants à la loi sécurité globale pour aboutir à une mobilisation pour les droits sociaux et la liberté.
Bah oui, je pense que tout ça fait encore une fois système, dans le sens où ce qui est fragilisé aujourd'hui, c'est précisément ce rapport aux institutions, et ce qui peut faire converger un certain nombre de déceptions qui peuvent se transformer en résistance, voire en mobilisation.
Et le sentiment aussi, parce que ça vous le montrez aussi dans vos travaux, que la confiance à l'État, aux institutions, elle se fonde aussi sur voilà, est-ce que l'État traite tout le monde pareil, est-ce que les institutions traitent tout le monde pareil, et là, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire, c'est aussi ça qui est reproché précisément à l'État, c'est de ne pas traiter tout le monde pareil.
Alors, il y a cet aspect-là, mais même plus fondamentalement, il y a aussi derrière la question de la relation aux institutions étatiques, des manières de s'approprier et de tourner dans son intérêt ce que peuvent faire les institutions étatiques. Et là, il faut reparler des inégalités sociales et de fait que même si en apparence, il y a une forme d'égalité de traitement et pour les usagers face à l'administration, les différences sont telles en fait dans les manières de domestiquer la règle, de contourner la règle, de s'arranger avec la règle, que en fait plus on grimpe dans la hiérarchie sociale, plus on arrive à
proposer,
domestiquer les institutions étatiques, à tourner la règle à son avantage, et plus finalement on a relativement confiance dans des institutions qu'on arrive à tourner à son avantage. Et à l'inverse, chez les moins diplômés et au sein des classes populaires, là il y a une défiance qui est beaucoup plus marquée à l'égard des institutions, aussi parce que elles sont perçues comme des institutions avec un pouvoir arbitraire, un pouvoir qu'on comprend pas. L'expression qui revient le plus souvent dans les entretiens qu'on fait, c'est pas logique, quoi. C'est pas logique qu'on me demande ça alors que aux autres on demande autre chose, etc. Et de ce point de vue là la crise sanitaire, effectivement, elle est venue révéler au grand jour des tendances que nous on avait pu mesurer dans nos enquêtes, c'est-à-dire le fait que on exige de certaines catégories de citoyens des règles extrêmement contraignantes, et puis à côté de ça on est extrêmement indulgent avec d'autres, et ça suscite des sentiments d'inégalité qui sont extrêmement mobilisateurs dans ce pays, parce qu'il y a un vrai attachement à la justice, à l'égalité, et une vraie croyance dans l'idée que l'État peut être le garant de cette justice et de cette égalité.
Alexis Spire, justement, on parle de confiance des citoyens dans l'État, les institutions. Cette crise, justement, c'est aussi l'État bureaucratique qui demande une attestation pour sortir. Et quelque part donc, qui lui ne nous fait pas complètement confiance, en tout cas c'est comme ça aussi que ça peut être vécu, confiance des citoyens dans l'État, mais aussi de l'État vis-à-vis des citoyens, ça se joue dans les deux sens finalement.
Oui, alors ça se joue dans les attestations, effectivement, quand on compare avec d'autres pays étrangers, hein, on est l'un des seuls à avoir mis en place un système aussi bureaucratique et aussi contraignant concernant la gestion de la crise. Et effectivement, on a le sentiment que, disons qu'il y a eu beaucoup de paternalisme à l'égard des citoyens, et que c'est pas, cette forme de condescendance est pas très propice, disons, au civisme et à la confiance.
Alexis Spire, c'est ce quoi qu'il en coûte qui aboutit finalement à ces débats sur la dette. Ça aussi a été analysé comme un retour de l'État, justement à l'occasion de cette crise, et en l'occurrence de l'État protecteur.
Ouais, alors là, il faut faire quand même un peu attention et regarder de près, parce qu'on peut dire, on peut aussi regarder les choses différemment et dire que c'est une forme de mutualisation des pertes pour les entreprises, dans le sens où depuis le début de la crise, c'est vrai que l'État a beaucoup fait, mais et beaucoup intervenu, et beaucoup plus que dans d'autres pays, mais il est beaucoup intervenu aux côtés des entreprises, il est beaucoup intervenu pour éviter les faillites. Alors c'est vrai que derrière des entreprises, il y a des salariés qui profitent du chômage partiel, tant mieux pour eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui pour tous les travailleurs précaires, pour tous les intérimaires, très peu de choses finalement ont été faites, et c'est eux qui vont payer le plus lourd tribut à la crise, parce que précisément je pense aussi aux auto-entrepreneurs, toutes ces catégories de travailleurs, si vous voulez, qui ont des filets de protection qui sont déjà très très faibles et très atténués, et qui pour lesquels finalement le les mesures du quoi qu'il en coûte n'ont rien prévu en fait. Et donc l'État protecteur peut-être, mais en tout cas pour certaines catégories d'acteurs, pour les entreprises, pour les plus installés en fait, hein, les plus ceux qui avaient des revenus les plus fréquents, les plus réguliers, incontestablement, disons que l'État a fait beaucoup pour eux, mais on va, je pense, dans l'année qui vient, se rendre compte d'une aggravation considérable des inégalités à travers toutes ces catégories de travailleurs je pense aussi à aux étudiants qui avaient des jobs d'été, etc. Et donc tout ça, c'est une espèce de beaucoup de catégories de travailleurs qui n'étaient pas du tout pris en charge par les minima sociaux ou par les filets de protection de ce type, parce que précisément ils avaient des activités rémunérées et qu'ils pouvaient relativement s'en sortir, on va dire, avec leurs activités rémunérées. Et ils sont pas repérés par les services sociaux, si vous voulez. Les services sociaux peuvent être habitués à apporter des prestations à ceux qui de fait sont totalement à l'écart de l'emploi et de l'insertion sociale. Mais là, en fait, ce que la crise a provoqué, c'est le basculement dans la pauvreté de gens qui n'étaient pas précisément dans ces filets de protection de l'État social, et qui n'ont pas été pris en compte dans la gestion de la crise et dans le quoi qu'il en coûte. Et pour eux, il va en coûter très cher, et c'est sans doute encore assez peu visible dans le débat public.
Vous avez travaillé, Alexis Spire, sur le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous diriez, comme certains le disent aujourd'hui, par exemple le politologue Pascal Perrineau, mais il y en a d'autres, qu'il y a un risque d'une gilet jaunisation de la France avec cette conjonction de crise que l'on vit aujourd'hui?
Ouais, alors moi je me garderais bien de prédire l'avenir, mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que d'une certaine manière un certain nombre de catégories sociales du bas de l'échelle sociale qui sont en train de décrocher et qui sont de plus en plus, alors à la fois éloignées du débat public, éloignées des filets de protection, et que pour ces catégories là qui sont des catégories. Alors encore au travail, effectivement, il y a le sentiment que de absolument plus être reconnu, absolument plus être visible, et que c'est sans doute, disons, problématique du point de vue du contrat social et du point de vue de l'avenir qu'on peut leur réserver. Hein.
Avec effectivement ce sentiment d'injustice et de traitement différencié selon qui l'on est, c'est ce que l'on disait tout à l'heure.
Oui, parce qu'encore une fois, pour toutes ces mesures qui sont prises, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que il y a des usages sociaux qui sont derrière, il y a des façons de s'approprier les mesures, et que même à travers, par exemple, les catégories d'indépendants ou des aides aux entreprises, vous avez des entreprises qui ont tiré beaucoup plus profit du chômage partiel, des aides qui ont été, parce qu'elles ont précisément à leur disposition des juridiques qui peuvent maximiser certaines prestations, maximiser l'usage du chômage partiel, et puis derrière beaucoup de petites structures qui sont totalement coulées. Et que là encore une fois, ce qui est touché derrière ça, c'est la question de c'est la question des principes de l'État social, c'est la question de l'égalité, c'est la question de la justice, et c'est sans doute ce qui fragilise beaucoup cette relation aux institutions étatiques.
Alors, je le disais tout à l'heure, Alexis Spire, vous menez en ce moment un projet de recherche sur la confiance dans les institutions étatiques et scientifiques à l'épreuve du coronavirus. Vous travaillez pour cela dans deux hôpitaux, l'un en région parisienne, l'autre dans le Grand Est. Vous conduisez des entretiens avec des soignants. Il est évidemment beaucoup question de confiance en ce moment à propos des vaccins. Les Français s'en méfient particulièrement. C'est documenté par de nombreux sondages, études. Vous avez commencé, vous, à travailler donc là-dessus avec les soignants, qui seront pour certains parmi les premiers à avoir accès au vaccin en janvier. Comment voit-il cela arriver, pour ce que vous pouvez en dire à ce stade de votre travail ?
Oui, alors c'est une enquête qu'on mène depuis le mois d'avril avec Maud Gelly et Christelle Gris, effectivement dans deux hôpitaux. On fait beaucoup d'entretiens avec des soignants et on a fait beaucoup d'entretiens sur cette question de la confiance dans les institutions étatiques et aussi évidemment dans la question du vaccin. Alors on a des premiers signes en fait sur la question du rapport du vaccin à la grippe où déjà on a des taux de vaccination qui sont relativement faibles chez les soignants. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que cette question du vaccin, là encore, elle peut pas être complètement déconnectée de la pratique et de la question des conditions de travail. Et qu'en fait, d'abord, on a des forts écarts entre personnel soignant, entre les aides-soignantes et les médecins, sur le taux de vaccination, en fait. Hein, pour ce qui est de la grippe saisonnière, les médecins se vaccinent dans les hôpitaux publics à hauteur de 65%. Quand vous allez voir du côté des infirmières, on est plutôt autour de 40%. Et puis, pour les aides-soignantes, on est encore en dessous,
encore
en fait.
Moins.
Et derrière ça, il y a des questions de proximité avec les patients et le fait que, et je pense que ça va se poser encore pour la question du coronavirus, hein, chez beaucoup de soignants, l'idée que, de toute façon, ils sont au contact avec les patients, ils sont au contact avec la maladie, donc leur immunité, ils se la font d'une certaine manière au quotidien. Et que, par ailleurs, les directions d'hôpital ont pas fait beaucoup, en tout cas pendant la crise du coronavirus, pour les protéger. Hein, il a manqué, alors pas dans les services de réanimation, pas dans les services d'urgence, mais dans beaucoup de services moins directement touchés par le Covid, il a manqué des masques, il a manqué des surblouses, et que donc du coup cette absence de protection a conduit ces soignants à se dire que ils allaient se faire leur immunité tout seuls, parce que quand même ils y sont allés, beaucoup sont tombés malades, sont revenus ou ont continué à travailler ou sont revenus au travail, et donc aujourd'hui quand se pose la question du vaccin, beaucoup ont tendance à se dire franchement notre immunité on l'a faite. Alors si vous ajoutez à ça une question qui là pour le coup ne concerne pas que les soignants mais l'ensemble de la société, qui est la méfiance à l'égard des laboratoires pharmaceutiques, hein, qui est liée à l'histoire, qui est liée à une succession de scandales autour de ces laboratoires pharmaceutiques, vous avez un raisonnement qui est, en tout cas chez les soignants, de se dire nous on s'est fait notre immunité parce qu'on nous a envoyé au front sans toujours avoir les équipements et maintenant pourquoi on irait s'inoculer disons un vaccin où en plus de la maladie on risque d'avoir d'autres choses, parce qu'on n'a pas assez de recul, parce que les choses ont été faites dans l'urgence, parce que c'est un laboratoire pharmaceutique américain et que les États-Unis ont voulu à toute force sortir le vaccin avant tout le monde.
Oui.
Et voilà, toutes ces questions-là, elles sont pas spécifiques aux soignants, elles vont se poser à l'échelle de la société. Hein.
Et en même temps, là, pour le coup, on entend bien du sommet de l'État, c'était très clair hier quand Emmanuel Macron a parlé des vaccins, justement, il a dit, on sait pas tout du virus, on sait pas tout du vaccin, c'était plutôt prudence, 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 et promesse de transparence sur, on dira au fur et à mesure, etc., ce qu'on en sait. Donc on peut aussi avoir une certaine méfiance vis-à-vis des vaccins, sans être, enfin de ce vaccin en particulier, sans être nécessairement anti-vax, quoi.
Absolument. Et de ce point de vue-là, on peut faire un parallèle un peu osé, mais j'oserais le faire, entre le rapport au vaccin et le rapport à l'impôt, si vous voulez. C'est-à-dire que il n'y a pas d'hostilité de principe en France à l'impôt. La très grande majorité des gens conviennent que, il faut des impôts, il faut un État protecteur, et donc que chacun contribue et mutualise un certain nombre de services. C'est d'accord. Ensuite, il y a la question de tel impôt, de tel vaccin, et on pourrait dire de la même façon qu'il n'y a pas d'hostilité franche et massive à l'égard des vaccins. C'est pas non plus une question on l'entend parfois, de défiance à l'égard de la science, à l'égard des scientifiques, à l'égard des chercheurs, parce que les taux, pour le coup, les statistiques qu'on enregistre sont plutôt assez unanimes en matière d'adhésion aux scientifiques et aux laboratoires de recherche. Mais c'est plutôt, encore une fois, la question des usages, en fait, qui sont faits de la science, et surtout la question des laboratoires pharmaceutiques, encore une fois, qui suscitent la défiance et qui conduisent les gens à dire, j'attends de voir. C'est pas une hostilité frontale à l'égard de tous les vaccins, c'est plutôt de dire j'attends d'avoir du recul et il n'est pas question de se précipiter, parce que il faut avoir en tête que pendant très longtemps la question des vaccins ne posait pas problème en France. En fait, elle fait question et elle fait des pas depuis les années 90, depuis les questions posées autour du vaccin de l'hépatite B, puis ensuite il y a eu le vaccin H1N1 et toutes ces expériences historiques, elles pèsent évidemment dans l'inconscient dans l'inconscient des usagers, dans l'inconscient des soignants, et elle pèse pour se dire, voilà, dans un pays où les liens entre où l'État social est très fort, où le système de protection sociale est très fort, où les liens entre l'État et les médicaments sont évidemment étroitement imbriqués, il y a non pas une hostilité de principe, mais disons une relative prudence qui consiste à dire attendons de voir.
Et en même temps, vous le dites aussi, pour construire cette relation de confiance, il faut des intermédiaires. Et dans ce cas, justement, les soignants sont censés servir d'intermédiaires.
Oui, alors ça, effectivement, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il va falloir reparler, disons, de cette question des soignants. Et le Ségur de la santé est loin d'avoir tout résolu, parce que on les a envoyés au front, on leur a dit que c'était nos héros. Et puis ensuite, il s'est plus passé grand-chose du point de vue de la question des conditions de travail dans l'hôpital public, du point de vue de la reconnaissance des statuts dans l'hôpital public. Hein, on peut penser alors à des grands oubliés de cette campagne de héros que sont les aides-soignantes, que sont les médecins étrangers, qu'on a peu vu en fait hein, sur les plateaux télé, mais qui ont payé un lourd tribut, disons, en termes de maladie, en termes d'activité au contact des patients, et qui en termes de reconnaissance, en termes de rémunération, ont été les grands oubliés. Et voilà. Et maintenant, on veut les ressolliciter. Bah, il va falloir leur donner des preuves d'amour.
Alexis Spire, vous restez avec nous pour jusqu'à la fin des matins du samedi. Il est 9h moins le quart.